Pierre Seghers, donc, et je salue tout d'abord sa fille qui a bien voulu m'accompagner et que je remercie mille fois. Elle est surtout artiste peintre, de très très belles réalisations en aquarelle, en huile, et nous aurons l'occasion tout à l'heure de parler un peu avec elle de ses œuvres. Alors Pierre Seghers, on connaît ses éditions bien sûr, j'allais dire plutôt on ne connaît qu'elle. La collection Poète d'aujourd'hui, surtout, nous est chère et elle tient dans notre bibliothèque à peu près la même place que celle de la poésie chez Gallimard. Elle constitue une belle anthologie donnant à la fois un choix de texte, une présentation et une bibliographie des poètes choisis. Elle comprend quand même 270 numéros. C'est assez remarquable. Et en fait, ce sont bien plus que les poètes d'aujourd'hui. Il y a d'autres collections que Pierre Seghers a créées. Je crois qu'il y en a une bonne dizaine. Écrivains d'hier et d'aujourd'hui, poésie, chansons, cinéma, musiciens, etc., etc. Il a même été à la tête de 120 personnes. Formidable entreprise, et ce n'est pas rien, je crois. Ce rappel serait déjà suffisant pour prononcer une conférence sur cette formidable aventure éditoriale, mais ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Pierre Seghers est aussi l'auteur d'une anthologie, le livre d'or de la poésie française, avec laquelle nombre d'étudiants, dont je fus, ont pu lire la poésie contemporaine. Mais ce n'est pas encore notre objet d'aujourd'hui. Je voudrais parler du poète, car Pierre Seghers était avant tout et surtout poète. Il naît le 5 janvier 1906 à Paris. Ses parents s'installent à Carpentras, où le petit Pierre découvre assez rapidement la poésie, mais également il veut travailler. Il se fait employer par un notaire et monte à Paris. Il fait ses services militaires en Corse et découvre son intérêt pour les beaux livres. Il commence même à acheter de vieilles et rares éditions bien imprimées. Il abandonne alors le notaire, se marie avec un bédouin, dont il ne tarde pas à se séparer puisqu'il est pris par son métier. Il vend en effet du matériel pour bar et hôtel. Vous voyez que la poésie mène à tout. Durant 10 années, il mange la vie par les deux bouts. Il veut s'en sortir, comme il dit. Et en 1932, il fait une rencontre essentielle d'un certain Louis Jou, J-O-U, qui lui fait découvrir l'univers de l'imprimerie qui le passionne. C'est alors qu'il publie également son premier recueil, dont le titre, rétrospectivement, « Bonne espérance », en 1938, annonce déjà sa motivation, dans le conflit même qui va suivre. Ce jeune poète de 32 ans porte en lui son avenir et entend profiter de chaque instant. Je vous fais une petite citation. « Nous, en dehors des bruits qui créons un monde au langage secret, nous, butés des passants, princes d'autres pays et pris de formes inconnues, ah, laissez-nous passer la fugitive vie un jour entre les nuits. » Le poète se nomme Prince, pour évoquer sans doute une attitude supérieure, sans doute être cette propension à la supériorité qui lui fera renier cet ouvrage. Ne recevant pas de réponse d'éditeur, il fonde les éditions de la Tour, donc première maison d'édition, les éditions de la Tour. La Tour, le poète et sa tour, on est là dans un schéma à peu près classique, mais dès l'instant qu'il a reçu une réponse négative du premier éditeur, lui-même finalement se refuse à s'auto-éditer et il détruit ce premier livre. Enfin, il le détruit à moitié puisque certains extraits paraîtront dans le petit livre qu'il s'est lui-même consacré. Mobilisé en novembre 1939, il s'aperçoit qu'il est recruté dans la même caserne que Guillaume Apollinaire, 25 ans auparavant, à Nîmes. Cette coïncidence va décider de son avenir, il sera revuiste. C'est ainsi qu'il crée la revue Poète Casqué. Bon, celle-ci est autorisée par son chef, qui n'y voit pas trop de rapport avec le PC, je veux dire le poste de commandement. Mais bien sûr, on entend le PC. Cette initiative, alors qu'il est un parfait inconnu, est rapidement relayée par un certain André Billy, du Figaro. Il reçoit alors de l'argent et un courrier abondant. Il reçoit de l'argent notamment de Aragon. Et il a le culot de dire à Aragon, mais c'est pas de l'argent que je veux, c'est des poèmes. Et Aragon s'exécute. En 40, il décide de rentrer en résistance avec les poètes et donc de se maintenir, comme il dit. Il rencontre Aragon à Carcassonne et reçoit tous les poètes réfugiés. Il participe même aux rencontres de Lourmarins. Les poèmes de cette époque sont bien sûr marqués par la guerre. Pierre Séguier s'entonne le chant des innocents et nous allons écouter Jean-François d'un poème issu de l'annonce des massacres de Châteaubriant le 23 octobre 41. Octobre.
Pardon, qu'est-ce que c'est ?
Octobre.
Oui. D'accord.
Pardon, alors.
Octobre. Le vent qui pousse les colonnes de feuilles mortes, octobre. Quand la vendange est faite dans le sang, le vois-tu avec ses fumées, ses feux qui emportent le massacre des innocents. Dans la neige du monde, dans l'hiver blanc, il porte des taches rouges où la colère s'élargit. Eustache de Saint-Pierre tendait les clés des portes, 50 fils, la mort les prit. 50 qui chantaient dans les chopes et sur la plaine, 50 sans méfait, ils étaient fils de chez nous. 50 au regard plus droit que dans les yeux de la haine, s'affaissèrent sur les genoux. 50 autres encore, notre Loire sanglante, et Bordeaux pleure, et la France est droite dans son deuil. Le ciel est vert, ses enfants criblés qui toujours chantent, le Dieu des justes les accueille. Ils ressusciteront vêtus de feu dans nos écoles, arrachés aux bras de leurs enfants, ils entendront avec la guerre, l'exil et la fausse parole, d'autres enfants dire leur nom. Alors, ils renaîtront à la fin de ce calvaire, malgré l'octobre vert qui vit sans corps se plier, aux côtés de la Jeanne, au visage de fer, né de leur sang de fusillé.
Leur chant de fusillé. Ce chant est marqué par une forte coloration christique avec le massacre des innocents, bien sûr, la résurrection et le Dieu des justes. Coloration christique appuyée par la litanie des répétitions et le rappel historique de Jeanne d'Arc. En 1945, il est appelé à aller en Allemagne, faire connaître les intellectuels et surtout les poètes français. Ça sera l'occasion de nombreux voyages, aussi bien en Allemagne qu'en Tchécoslovaquie, en Hongrie, même en Égypte. C'est un infatigable travailleur et un infatigable voyageur. Il fait la connaissance alors de Colette Séguier, ce qu'il dit de lui, dans ce livre de souvenirs. Il avait une vitalité peu commune, une rapidité de météore. À vrai dire, et pendant un certain temps encore, ses publications passent quasiment inaperçues. Il est tout de même convoqué à Vichy. Ce n'est pas pour rien, en effet, car à cette époque, il rend visite même à Jean Paulhan, grand passeur de lettres et résistant. Ses positions, son engagement et ses connaissances l'engagent à participer à la réunion qu'organise René Tavernier à Lyon pour fonder le Comité national des écrivains. Il est nommé délégué au comité directeur du Front national et s'entretient avec Louis-Martin Chauffier qui organise le maquis et la lutte armée et la diffusion des revues, notamment Libération et Confluence. Mais Pierre Séguier, bien sûr, continue à écrire énormément de poésie et il me semble qu'on peut axer notre lecture sur trois points. Le premier serait bien sûr le côté militant dont nous venons déjà d'entendre un extrait. Le deuxième, c'est l'amour de la vie, parce que je crois, d'après ce que je viens de lire, que c'était une sorte de bon vivant, de quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait les gens. Et enfin, bien sûr, c'est le poète de la poésie. Dans Le Chien de Pique, 1941, on pense bien sûr au chien dans un jeu de quilles, la carte à jouer qui dérange, ici sans doute l'occupant. Et on entend cette prière. « Mon Dieu, laissez-moi en paix avec ma douleur. Versez dans ma tête vidée le sable de vos nuits et de vos amis. Mais laissez-moi, mon Dieu, cette branche pourrie. Un jour, elle faillit fleurir. Priez à mon exemple de violence, dont on ne sait s'il est dirigé vers le Dieu en question ou vers soi-même. Toujours est-il que le Dieu est fortement présent et atteste par là une grande spiritualité. En même temps, le poète évoque sur le ton léger des signes d'un bon vivant. Ah, le bon vin de la bouteille rousse, on y buvait le repentir doré, on y buvait la ciguë des forêts, le vent d'avril et le diable à ses trousses. Et dans le même style de chanson, et quelquefois donc sur le bord du militantisme aussi, ces deux petits vers, un mort à gauche, un mort à droite, choisis la route la plus droite. Nous allons maintenant entendre, dans un recueil qui s'appelle « Pour les quatre saisons », un titre qui semble s'accorder avec la Révolution nationale, « Les quatre saisons », du maréchal Pétain. Mais ici, le mois d'août pue, Colette.
L'été nous vint sous le signe de la charonne, la croix du Nord se vêtait de sang pourri. Le blé puait le cadavre mal nourri, le pôle était hanté. Là-bas, la Pologne mourait. Là-bas, on pendait des faux médiums qui lisaient l'avenir vert dans la tripaille des bœufs ouverts. Les poissons entre les mailles filaient dans les villes bleues sang. C'était comme un grand crachat. L'homme est un poulpe de terre qui crève sa poche de nuit au moment du combat. On vivait là comme le temps du pain de trique. On vivait là le mystère cousu. On ne rendait pas les corps. Celui qui partait était crevé de 12 balles. En criant comme un crieur annonce aux halles le jour plus fort que toutes les mesures de nuit. C'est l'été. Faine au moulin du silence, le bel été, chien de sang couvert de tiques, le charançon dans le marbre de l'Afrique, la radio hérissée de fer de lance, la sève vomissure aux arbres montés, le ventre sain de la mer dynamité, l'été, bon Dieu, la chaux vive pour semence, beau travail, et s'il rate, on recommence.
Beaucoup d'ironie, mais beaucoup de militantisme également. On va le voir également dans le titre Paris, Jean-François, dans le cadre des Miseurs.
Paris. Quand le cap des Misères changera de nom, quand les jeunes filles pourront rire, quand l'amour aura mis ses masques de travers, quand on ne prendra plus la cire et le miel des abeilles, quand les fleurs seront encore têtues, quand Paris retrouvera Paris sous le dernier camion, alors ce sera le grand printemps sur notre terre. Quand nous toucherons à la côte de l'île de France, nous ne chanterons pas comme les gamins. Nous ne pousserons pas non plus les chevaux de frise de la haine. Nous retrouverons notre espoir inébranlable sur la terre. Quand les voix tues parleront plus vite, quand le printemps refleurira, nous ne viendrons pas avec des pierres dans nos frondes. Toutes les rancœurs ont coulé bas. Comme après la grande maladie du père, le fils éprouve son plus grand amour, nous viendrons avec le plus grand amour vers notre terre. Quand le cap des misères changera de nom, quand le train d'Arpajon retrouvera les halles, quand les gens de chez nous renaîtront à leur jour.
On entend bien sûr les refrains, les répétitions pour accentuer l'aspect militant et l'espoir en ces temps de guerre. Et dans le domaine public, en 1941, je lis cet extrait intitulé « Le cavalier ». Comme un chaval d'or pur, ou comme dieu de procession, comme une idole, et lentement sur un long chemin de calvaire, en fer, en plomb et en buée, plus solennel qu'un empereur, il s'avançait. Dessous son dais, il mâchait une plante amère et les épaules s'affaissaient de ces porteurs que nous étions. Il descendait du ciel aveugle en cahotant. Être et monture, soudés l'un l'autre, et le brouillard du cavalier comme le bois pesait le poids des plus hauts fûts quand les arbres de la colère de la forêt sont abattus. Ils étaient lourds comme la loi. On entend bien sûr l'évocation, une atmosphère étrange et l'écriture un peu surréaliste, me semble-t-il. S'agit-il d'un des cavaliers de l'Apocalypse ou d'un chevalier perdu du Moyen-Âge? Sans doute, bien sûr, peut-on y lire un écho de la guerre avec ces chevaux de fer que sont les tanks qui ravagent le pays. On va entendre un autre poème sur Paris, toujours dans le domaine public de 1841.
Les pigeons de Paris qui criaient sur les toits, l'étoile, l'opéra, le carrousel, le Louvre. Les chemins de mon sang à la tristesse s'ouvrent. Je vais dans un Paris que je ne connais pas. Un Paris, mon Paris qui de vide s'aveugle, ses orages de pleurs dans des caps flottants. Un Paris étranger qui se tend et attend le printemps, puis l'été, puis la chute des feuilles. Un Paris d'un hiver pierreux et dur, qui dure une ville de gel où circulent des mots interdits, inconnus des signes, des signaux. Une ville de toits tressés comme des murs. Ce qu'on y voit, ce sont ses plaies et ses tortures. Ce qu'on y lit, ce sont les crimes de Judas. Les chevaux dans le ciel se cabrent, pas à pas, lourds, pesants, du fer et des armures. Mon pays traversé par les flèches, son rire sur nos places clouées comme un oiseau, ses mains, ses chemins, son allure et sa grâce qui teint l'univers ébloui, malade à en mourir. Disparaissez, homme beauté, homme de cuir, allez-vous-en. Le ciel se prend où vous êtes. De Paris, vous n'aurez ni le corps, ni la tête, ni l'honneur. Il se tait le sang de nos martyrs.
On entend bien sûr ici clairement la description de la ville occupée. On entend le poète qui joue sur les mots. Il est emporté par les mots. Un Paris étranger qui se tend et attend. Un Paris d'un hiver pierreux et dur qui dure. Interdit, inconnu, des signes, des signaux. Il joue sur les rythmes aussi. Ce qu'on y voit, ce sont ses plaies et ses tortures. Ce qu'on y lit, ce sont les crimes de Judas. Jusqu'à cette adresse répétée, disparaissez, homme beauté, homme de cuir, allez-vous-en. L'allusion est assez claire pour valoir à ce poète le poteau d'exécution. Heureusement, et c'est peut-être aussi pour cela que le propos est sans ambiguïté, la diffusion des poèmes à cette époque se fait dans la clandestinité. En 1944, cette fois c'est Paul Éluard qui publie Pierre Segers dans la fameuse collection L'honneur des poètes aux éditions de Minuit. On va entendre un poème, le Pipeline de Bassora, dans le futur intérieur.
Ceux qui sont morts pour rien ne reviendront jamais dans cet empire. Là-haut, d'autres drapeaux, le sable chaud ne change pas. Les mains des soldats morts forent les puits de l'or liquide. Leur sang coule dans le pipeline de Bassora. Dans les forges des enfers, les guerriers tués attisent les flammes. Le bois d'ébène, l'or de Colomb, la Standard Oil et 3 Hector Priam sont de la même chaîne. Pour conquérir, nous aurons toujours de bonnes raisons, de bons soldats. Pour conquérir, nous aurons toujours les chants exaltants des poètes. Les sociétés, par action, ça ne les intéresse pas. Des capitaines, des généraux et des trompettes, et la mort dans le pipeline de Passora. Roulez, tambour, auto-roulez, qu'on exécute les traîtres, les héros, les agents secrets, les meneurs, où le Christ a passé une huile lourde, à fleurs, ses temps sont loin. Voici le fouet des profondeurs. Nous vous annonçons des dividendes fantastiques, le Saint-Suaire de l'argent, l'âge du veau d'or et du veau gras. Pour quelques-uns, le monde, la vie des autres, dans nos barriques, la justice, le droit, dans le piping de Bassora.
Déjà, la guerre s'attaquait aux champs de pétrole et les hommes meurent pour cet or liquide. Ces guerres englobent toutes les guerres qui ont pour but les matières premières, le bois d'ébène, l'or de Colomb, la Standard Oil Company et 3 Hector Priam, sont de la même gêne. On aura reconnu dans l'expression « bois d'ébène » la désignation des esclaves qui sont devenus les soldats. Et en devers, le poète opère un raccourci saisissant pour faire entendre les intérêts privés, la Standard Oil Company américaine, qui pousse les États à la guerre, comme ce fut le cas pour la découverte de l'Amérique ou le conflit homérique de la guerre de Troie. Toutes les guerres se ressemblent, qui justifient la mort de quelques-uns pour le supposé bénéfice de tous. Et toujours, ces guerres s'assurent un style fait de répétition de leurs variations. On aura entendu rouler tambour, auto rouler, et bien sûr les énumérations qui convoquent le monde entier. Entendons maintenant, dans un style un peu plus léger, un long petit poème, La Sauvage.
La Sauvage. Un oiseau vêtu d'orage a fait son nid dans la pluie. Un homme dans son village allume le feu chez lui. La Sauvage prend son arc, ses flèches empoisonnées. Le châtelain dans son parc ne compte plus ses années. La Sauvage tue l'oiseau, se fait un château de plumes. Le villageois jette l'eau sur l'incendie qu'il allume, et l'on entend le cœur des crapauds au vent. L'oiseau a mangé le curare, le châtelain mourra, l'oiseau est déjà mort, la Sauvage déjà a oublié l'histoire. L'homme qui saluait l'hiver 4 fois par an a mis ses gants de filoselle et s'en est venu pour la voir. Mais à la limite des bois s'étendait une ligne noire. Il était venu sans espoir, il revient pour jouir du froid.
Voilà, poème en 3 parties, où le poète reprend le rythme et le ton de la chanson avec des rimes, ici augmentées par l'aspect de la parabole. Peut-être davantage ici une influence surréaliste se fait-elle sentir avec des belles images comme un oiseau vêtu d'orage. La fin ajoute la parabole et l'on entend le cœur des crapauds au vent avec son lot de mystères. Il fait connaissance de Véronique et il lui dédie 6 poèmes, dont on va écouter un extrait.
Vagabond sous le pont des nuits, amateur d'insectes et d'étoiles, berger du grand troupeau des astres, contemplateur, je vois les années-lumière dévaler avec l'appel de la chouette et sous le souffle d'un seul instant, les graminées partir du bal. Les lampes des hameaux sont d'autres planètes par toute la terre. Les arbres sont immobiles dans leur voyage sans but ni fin. Et le sang qui glisse dans mon cœur coule avec le même silence que les mondes ardents, les soleils qui jamais ne seront éteints. Le cri du grand-duc, pareil à l'enfant qu'on égorge, ne franchit pas la cime des bois. Il fait un tel silence qu'on entend le temps flétrir et froisser les feuilles et les herbes, non les hommes. Ainsi je vais, chevrier des constellations, garder avec toi des jours innombrables qui ne furent pas et demeurent les nôtres. Le sac du passé compte tant de grains que nous ferons la moisson belle et nous conduirons les animaux de nos jours au pâturage du ciel ensemble pour les mieux garder près de nos mains.
Voilà un beau poème, métaphore filée du ciel et de la terre. Les lampes sont des planètes, pâturage du ciel, troupeau des astres. On entend aussi le cri du grand-duc, pareil à l'enfant qu'on égorge, qui demeure cependant inaudible. Le poète se veut vagabond sous le pont des nuits, amateur d'insectes et d'étoiles, berger du grand troupeau des astres, contemplateur. Ses multiples définitions s'orientent toutes vers une symbiose entre le ciel, la terre, dans un grand élan. Et précisément, peut-être peut-on entendre la définition du poète que va nous lire Jean-François dans un poème choisi de 1952. Je passe et repasse.
Je passe et je repasse en moi. Je me reprends et me retourne. Je me refais et repars. Je me marche et je rumine. Je raconte, je réfléchis. Je rouvre d'anciennes écluses. Je rafiote en de vieilles eaux. Je rame, je rêve, je ronge. Sur l'osse friable du péché, sur l'arête en roche pourrie, sur la rare avance des mots, dans les yeux du monde à l'envers, je revais de faux or le temps, je me ravive et recommence. J'ordonne à ceux qui m'ont rendu. Je suis plus fatigué qu'un mort.
J'en suis pas certain. Pierre Seguin, c'est infatigable. Bon, on a entendu donc cette formidable litanie qui nous fait peut-être penser un peu à Louise Labbé. On aura entendu cette allitération « Je rame, je rêve, je ronge » avec peut-être une petite allusion au poème « Liberté » de Paul Éluard. Dans l'anaphore « Sur l'os friable du péché, sur l'arête en roche pourrie, sur la rare avance des mots ». Il dit en peu de mots ce que tout poète ressent, à savoir la difficulté à surmonter les épreuves. Et en même temps, il nous ravive de vieux mots comme ce mot « rafiote » que je ne connaissais pas et qui me semble tout à fait audible ici. Il lui naît un fils, Frédéric, en juin 52, à qui il dédie ce poème.
Les grands coraux noirs que l'hiver inscrit le long des routes, les vols d'oiseaux noirs, pareils à la graine des vents, tous les sillons noirs, tous les saints d'église sous leurs voûtes, et les châteaux de feuilles mortes où nulle cloche s'entend, ont froid. Le ciel est blanc, sur le chemin qui s'époumonne, à suivre un autobus vert qui sent le pétrole et la nuit. On s'enfonce dans des pays où l'on ne connaît plus personne. La buée des bouches où on s'oublie se mêle au bruit. Si tu descendais tout à coup et qu'on te laissa dans la campagne, tu te tresserais une cotte de mailles avec les coteaux du verglas. La longue feuille du roseau serait ta plus sûre compagne. Ta belle épée de gel, toutes les herbes sous tes pas courberaient leur tête, couronnées de perles pour ta venue. Le ciel t'offrirait ses diamants comme à son roi. Les grands bois s'ouvriraient pour qu'à travers l'ombre velue, toutes les bêtes inconnues s'en aillent en cortège avec toi. N'aie pas peur, si l'hiver et la nuit t'invitent, c'est à leur cour où le mystère déploie son long manteau de feu. Viens, chevalier des jours à venir, viens et quitte-nous. Viens et dors dans ma vie, entre frottant les yeux.
Voilà un bel hommage pour l'enfant à naître, ce chevalier des jours à venir, capable de charmer les animaux pour qu'ils aillent en cortège vers toi. Et comme à son habitude, Pierre Seguin se multiplie les allitérations, la buée des bouches, et même la répétition de l'adjectif noir, par exemple. Sans oublier les métaphores hardies comme ce couteau du verglas. Voici un poème plus léger, paru dans Le Cœur volant de 1954. Jean-François, pour caresser l'odeur des bois.
Un petit poème léger. Pour caresser l'odeur des bois, une main aux 100 000 doigts. Pour aller dans l'enfance ancienne, une main pour tenir la tienne. T'en souvient-il ? Un grand ciel bleu en étant luisant et levant, passant sur un château détruit avec ses feuilles et sa pluie. Sur la route du cœur volant, t'en souvient-il ? C'était au temps des saisons, au temps des nuages, nous étions comme eux de passage. Et si parfois tu sens sur toi, comme aujourd'hui, comme autrefois, une main aux 100 000 doigts, redis-toi toujours que c'est moi.
Pas trop besoin de commentaires, on apprécie ce poème. Un autre poème, peut-être un peu moins léger finalement, avec ce titre La Gloire, mais pas léger du tout du reste, puisque le deuxième titre c'est L'Algérie. On revient à la poésie combattante.
Légèreté en
fin de... Oui, comme légèreté en fin de... Tu as raison.
Mon beau dragon, mon lance-flamme, mon tueur, mon bel assassin, ma jolie brute pour ces dames, mon amour, mon trancheur de sein, mon pointeur, mon incendiaire. En auras-tu brûlé des hommes torches et violé des jeunes filles impubères ? Broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer. Va dans tes bêtes mécaniques, écraser ceux qui sont chez eux. Va de l'équateur au tropique, arracher le bonheur des yeux. Va, mon fils, va, tu civilises, et puis meurs comme à Épinal, sur une terre jaune et grise, où nul ne te voulait du mal.
Comme légèreté, en
fait. Oui, oui, oui. Jean-François va nous lire un poème intitulé « Racines », un long poème. Bon, on va pas le lire en entier. Si je m'endormais au cœur du rien.
Racine. Si je m'endormais au cœur du rien, dans des confins rongés d'eau grise, si je naissais dans des berceaux taillés dans le cœur des géants, si j'avais le soleil pour dais, la nuit pour traîne, et si le cœur du monde résonnait avec les oiseaux sauvages de mon cœur, alors peut-être, au centre de tout, alors peut-être, au centre de tout, naîtrait une rose, non plus un cri, mais une fleur vive dans un jardin. Et toutes les rumeurs, le bruit du ressac, le train des houles, se tairaient pour une seule rose et son parfum. Les arbres morts reverdiraient pour remonter dans leur voyage, pour annoncer que sur les plages, les hauts nuages et les vents ne croient plus aux dieux morts quand tout revit dans la durée d'une fleur d'un seul jour, que le temps partage le temps, et que tout continue et que tout recommence, que l'intérieur regarde et parle et refleurit dans le silence revenu où l'on entend battre une rose.
Suivent alors deux recueils tout à fait particuliers que sont Pierre et Piranèse. On va d'abord écouter Pierre. Et nous autres, que dirons-nous?
Et nous autres, que dirons-nous? Comme la vague sur la vague, et sans cesse nous roulons et nous nous refaisons d'une écume où le ciel se mire et se divise. Est-ce la mer ou nous, dispersés et mouvants, qui déferlons sur les rochers? Est-ce nous qui levons les pierres pour les cris de la honte ancienne, nous les fils d'un astre toujours neuf, qui renaît dans nos veines pour la sève et la vie? La nuit, pareille au jour, nous sépare, et le mystère nous aveugle, et les barrières et les mots. Sous les cendres du temps passé, la chaleur s'exténue, le feu oublie sa force. Sommes-nous des vieillards? Le cœur ne s'entend plus battre dans nos prisons de chair triste et de source. Dans nos mains, une torche éteinte, un fanal noir. Où sommes-nous? Dans les catacombes de la fée énorme, impuissants à palper la vie, ratiocineurs du temps perdu, les inventeurs du doute et de la mort. Mais là-bas, dans la lande, un berger dort, il prie dans son temple, il respire, et le soleil le prend dans sa main pour le voir naître, vivre et rêver dans les vents et dans les germes.
Il me semble que là, il y a quand même du souffle, on l'a déjà entendu plusieurs fois. Le poète multiplie les interrogations pour dire son impuissance, sa volatilité, sa vieillesse. Ratiocineur du temps perdu, mais aussi ses renaissances. Nous nous refaisons, dit-il, fils d'un astre toujours neuf. La fin dénote une tendance mystique. Il prie, spiritualité douée de paganisme, dans cet hymne au soleil. Le soleil, avec un S majuscule, le prend dans sa main. Et c'est Piranèse. Alors Piranèse, c'est ce graveur du 18e siècle, 1718, qui a longtemps fasciné Pierre Seghers. Il est connu pour ses prisons, aux multiples escaliers et piliers souterrains. J'ai retenu deux extraits de ce long poème, fait de nombreux autres poèmes. Les dessins de Piranèse évoquent immanquablement des prisons, comme son titre l'indique, des prisons hautes et labyrinthiques, dans lesquelles des escaliers nombreux ne cessent de se croiser et de se perdre. Et ces prisons, bien sûr, donnent à penser aux bourreaux. Jean-François, il ne restait rien.
Il ne restait plus rien que les piliers porteurs des voûtes colossales. Il ne restait plus rien. penombre exorcisée, rien qu'une plaie de pierre ouverte sur le pu des ténèbres. On voyait toutes les charnières et les instruments du système de la terreur, les dents plantées sur des épieux dans un ordre dément. On voyait l'ordonnance des lieux obscurs, les passerelles qui butaient sur le vide et sur l'écrasement. On y voyait le poids, la force et les secrets de la machine du pouvoir, surpris et dévoilés jusque dans leurs assises. Ce n'était que cela, les marches d'un palais, un labyrinthe de silence où nul n'osait parler, la nombreuse structure faite pour pétrifier chacun avec chacun.
Enchaîne.
Mais, non, punir, mais qui punir et de quoi? D'être libre d'aimer le vin qui coule et la femme amoureuse, de préférer le jour à la nuit, le soleil, aux disciplines, aux macérations de l'amertume. Punir, ils aimaient punir et enfoncer le visage des prisonniers dans la poussière des temps passés. Il le courbait, l'agenouillait, faisait la nuit dans sa mémoire, le rendait pauvre, la bouche pourrie par un péché qu'ils inventaient. Ils étaient les bourreaux de l'âme, parfaitement secrets et pleins d'onction. On les eût dit charitables, mais ils étaient froids comme une lame. Ils ne tuaient pas, ils volaient la vie de chaque instant. Chaque brin d'herbe devenait leur soldat, mais la chaleur des mains, qu'en faisait-il? À se prosterner sur les marbres, toute sa vie se perdait, le cœur devenait froid.
On a entendu donc ces poèmes fortement rythmés, celui-là notamment par la répétition du verbe punir, et cette autre répétition, c'est litanie, ils aimaient, ils courbaient, ils étaient des bourreaux, ils étaient froids, ils volaient la vie, pour se terminer par cette question sur la chaleur humaine. Et c'est bien aux bourreaux plutôt qu'aux victimes que s'adresse le bourreau qui a perdu le sens de l'humain. Écoutons cet autre poème là qui indique cette fois un retour sur soi, davantage narcissique peut-être, un peu fort peut-être le mot narcissique, Jean-François.
Décourage en toi le chagrin. Les caroubiers, les lauriers roses de ton jardin, arrose-les pour les oiseaux. Réjouis-toi quand tu t'éveilles d'une journée toujours la même. Ton cœur te dit à chaque instant que ta durée va de son pas, régulier comme un pas d'horloge. Invente des gazons pour reposer ta vue et fais comme à Grenade, ruisseler l'eau du temps sous les roses. Je sais, cette tour capitale est tout imaginaire. Mais si tu vis comme un poète en ce haut lieu, ben dis-moi où est la réalité. Sur le dedans, ouvre les yeux et découvre en toi d'autres chambres, d'autres allées. Les narcisses dans le désert refleuriront. Invente en toi d'autres rivages où le roc se dérobe, où le reflet n'est plus qu'un tapis, où marcher sur l'eau du ciel. Invente une ville déserte, un Pompéi vacant, et fais tourner sur l'écliptique pour mieux jouir de l'ombre et des grands pans déserts, la lumière et l'obscur. Fais-toi de la chaleur, des souvenirs en creux dans tes mains, puis va-t'en, défricher les 100 000 hectares de ton domaine intérieur. Décourage en toi le chagrin.
Beau poème, me semble-t-il. Alors, j'ai tendance tout à l'heure à dire narcissique, mais le poète n'est-il pas non plus un narcissique lui-même, un narcisse qui s'interroge sur lui-même? Mais ici, c'est bien le poète qui parle, qui s'admoneste. Invente une ville déserte et dis-moi où est la réalité, se demande-t-il. N'est-elle pas, en effet, une aventure intérieure? Et n'est-ce pas ce poète qui ne se contente pas de pleurer, qui veut agir et qui agit? C'est sur cette note optimiste que se clôt cette évocation de la poésie de Pierre Séguier. Mais nous n'en avons pas fini avec le poète tout de même. Car, on l'a un peu entendu, Pierre Séguier aime la chanson. Et je voudrais vous faire entendre cette chanson que vous allez rapidement reconnaître, très célèbre. Et il faut dire aussi que Pierre Séguier composait lui-même certains refrains. Et ils seront mis en musique par Jacques Douai, Hélène Martin, Jacques Loussier, et même par Pierre Séguier lui-même. On va donc écouter cette chanson dont le simple titre va vous réveiller des souvenirs sans doute. Merde à Vauban.
On ne chante pas. Hein.
Ah, pas moi.
Moi non plus. Alors là, il n'y a pas. Je l'ai déjà, c'est pas grave. Donc, tu as donné le titre ?
Oui, merde à Vauban.
Ah, pardon. Bagnard au bagne de Vauban dans l'île de Ré. Je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne, mais dans 20 ans pour elle, je serai plus personne. Merde à Vauban.
Bagnard, je suis chêne et boulet. Tout ça pour rien, ils m'ont serré dans l'île de Ré. C'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Toi, je vois faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban.
Bagnard, ici les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir renier nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant. Pour elle, j'ai manqué la belle, merde à Vauban.
Bagnard, la belle est là-haut, dans le ciel gris. Elle s'en va derrière les barreaux, jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle, tout en rêvant à mon amour qu'est la plus belle. Merde à Vauban.
Bagnard, le temps qui t'en s'allonge dans l'île de Ré. Avec ses poux, le temps te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux? Où est sa bouche? Avec le vent, on dirait parfois que je les touche. Merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir et froid et vieux qui me sortira d'ici un soir. Et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant. Mais je chanterai d'en dessous mes planches. Merde à Vauban.
Inutile de dire qu'on voit ici bien sûr le caractère politique, militant, voire anarchiste cependant, révélé par l'interprétation de Léo Ferré qu'on a tous en tête bien sûr. Autre aspect de Pierre Segers, poète, c'est son goût, son intérêt pour la poésie étrangère. Il a traduit des anthologies croates et perses. Et plus important, il a traduit deux poètes remarquables, Saadi et Hafiz, poètes des XIIIe et XIVe siècles, jugés de la difficulté à cette époque sans internet de se procurer leurs œuvres. Il a fallu se procurer les premières traductions, puis les œuvres originales, et enfin lire les exégètes pour se lancer dans une nouvelle traduction complète et non expurgée. Il voyage pour cela entre bibliothèque et exposition. Par là même, il retrouve les joies de la composition, le choix du papier, des illustrations. Et il traduit comme Gilvic, c'est-à-dire avec l'aide de personnes qui connaissent la langue au départ. Il met ensuite le poème en français. Donc ce sera le livre d'Or du Divan en 1976. Je ne peux pas terminer l'évocation de Pierre Segers sans évoquer tout de même, je le disais, ce troisième axe, le poète de la poésie. Car en effet, comment introduire ce paradoxe de ce poète qui n'a pas vraiment étudié la poésie à l'école, je ne suis pas sûr même qu'il ait eu son bac, il n'a pas en tout cas fait d'études universitaires. Et voilà qu'à l'âge de 70 ans environ, il entreprend d'écrire une thèse. Non, pas trop tard. Pas trop tard du tout. Il la soutient à Nanterre, à Paris 10. Alors, la poésie de l'université en 1975 ne brillait pas par son dynamisme, je pense. Et surtout, elle méconnaissait totalement la poésie contemporaine. C'est alors que Pierre Segers rencontra Louis Forestier, jeune professeur d'université, couronné par l'Académie française pour son livre « Charles Cros, l'homme et l'œuvre ». Futur éditeur de Maupassant et de Rimbaud. C'est dire s'il était tout désigné pour accueillir le titre de Pierre Segers, je vous donne ce titre très académique, Culture, inculture ou action et création des poètes dans la société d'aujourd'hui. Il soutint sa thèse en 1975. Le jury est composé de Robert Mallet, Pierre-Emmanuel, Michel Lecollin, Marie-Jeanne Durie. Dans ce livre, cette thèse, je ne l'ai pas lue. Pardonnez-moi, elle doit être au fond d'une bibliothèque à Nanterre. On n'en parle pas beaucoup et certains, même quelquefois, doutent peut-être de sa réelle existence. Je ne crois pas. On peut se demander pourquoi Pierre Segers a-t-il voulu ce titre de docteur ès lettres, mais je crois que ça lui va bien finalement. Et ce livre, cette thèse, me semble-t-il, rien qu'à son titre, Action et création des poètes dans la société d'aujourd'hui, amène tout naturellement cet autre livre remarquable, que sera La Résistance et ses poètes. Dans ce livre, il analyse les rapports de la poésie des poètes avec la guerre, car c'est déjà le point marquant de ce travail qui est de déboulonner la statue du poète dans sa tour d'ivoire. Je vous parlais en introduction des des éditions de la Tour. On avait l'impression que Pierre Séguier se mettait comme ça dans une tour d'ivoire, mais non, pas du tout. Il est bien dans la vie réelle et on l'a vu. Il se soucie de chanter ses états d'âme, même y compris au milieu des guerres. Au contraire, Pierre Séguier met l'accent sur l'engagement des poètes. Des poètes individus ou des poètes avec leurs poèmes? Un poème peut-il constituer un acte de résistance? Pour ce qui est des poètes, on connaît le parcours de René Char ou d'un Aragon, par exemple. Bien sûr, il y eut parmi les collaborateurs des écrivains tels Robert Brasillach, Pierre Drieu-La Rochelle ou encore Henri de Monterland. On objectera peut-être que la poésie ne fut pas leur seul domaine d'écriture et qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas vraiment poètes. Vaste question. Surtout, Pierre Séguier veut préserver la mémoire de ce qui fut l'attitude des poètes durant la guerre. Je le cite. Nous avons vécu, enregistré l'orage. Le voici. Et l'orage peut revenir. Tels furent ces éclairs et ces trombes, ces maisons dévastées, la fureur noire, non pas aveugle, mais dirigée. La tornade. Et nous, petits, tout petits, quelques hommes parmi les autres, voici que nous étions où nous étions. Et pourquoi? Dans un préalable, il cite Goethe. Le monde est grand, si riche, et la vie offre un spectacle si divers que les sujets de poésie ne feront jamais défaut. Mais il est nécessaire que ce soit toujours des poésies de circonstances. Autrement dit, il faut que la réalité fournisse l'occasion et la matière. Un cas singulier devient général et poétique du fait précisément qu'il est traité par un poète. Mes poèmes sont tous des poèmes de circonstances. Ils s'inspirent de la réalité. C'est sur elle qu'ils se fondent et reposent. Je n'ai que faire des poèmes qui ne reposent sur rien. N'oublions pas que c'est Pierre Séguier qui cite la Goethe pour introduire cette résistance et ses poètes. Donc poésie de circonstances au sens le plus noble du terme, les poètes ne sont pas enfermés dans leur tour d'ivoire, mais au contraire affrontent les mêmes épreuves que leurs contemporains. Se pose alors la question de la poésie engagée, voire militante, contre laquelle, rappelle Pierre Séguier, Goethe s'inscrit, car il supprime la liberté. Dès qu'un poète veut faire de la politique, il doit s'affilier à un parti, et alors, en tant que poète, il est perdu. Il lui faut dire adieu à sa propre liberté, à l'impartialité de son coup d'œil, et tirer au contraire jusqu'à ses oreilles la cagoule de l'étroitesse d'esprit et de l'aveugle haine. Au terme de cette petite introduction de la poésie de Pierre Séguier, je voudrais revenir un instant sur sa maison d'édition. Il n'est sans doute pas exagéré de dire que Pierre Séguier a été un des pivots de la poésie française pendant 30 ans, de 1938 à 1968. Car si on tente un regard vers le passé, on retient en effet les noms d'Aragon, Deloire, Prévert, Guilvic, Ponge, Bonnefoy, Césaire, Senghor ou encore Chacotet, et celui de Pierre Séguier pour ses éditions. Il a su rester indépendant malgré les deux géants de cette époque qu'étaient le Parti communiste et les éditions Gallimard. Sa poésie, du coup, est un peu oubliée. J'espère l'avoir modestement remis à sa juste place. Se souvenir, en tout cas, que ce ne pouvait être qu'un poète capable d'animer la poésie pendant ces 30 années. Grâce, puisque c'est le thème du printemps des poètes, grâce lui sera rendue. Oui ? Pardon ? Oh, mille choses. Vous voulez lire un poème ?
Ah, peut-être.
Il me semble, oui. Peut-être.
Oui. J'aurais bien pris la parole plus près de ma chère Catherine, mais
allez.
Ça n'a pas été possible. Je les ai arrangés pour la petite et tout seul.
Merci.
Oui, je voulais dire que Pierre Séguier a aussi été un ami des jeunes poètes qu'il a souvent accueilli et publié dans ses diverses collections. Et que ce que disait Bernard Fournier sur son sens de la répétition, etc., etc., pourrait s'appliquer à n'importe quel poète, surtout au XXe siècle. Et que c'était surtout inspiré, à mon avis, plutôt par des poètes comme Michaud, comme Norge qui a été l'ami de Séguier, d'ailleurs. Je crois que la présentation de Bernard Fournier est un peu excessive dans le sens du militantisme de Pierre Seghers. Pierre Seghers n'a pas été militant en dehors de son passage très bref par le Parti communiste, qu'il a ensuite regretté, qu'il a quitté dès les événements de Hongrie. Je voudrais vous lire un poème qui date du début de la Seconde Guerre mondiale. Quand Pierre Seghers s'installe à Villeneuve d'Avignon, c'est-à-dire dans la toute petite enfance de Catherine Seghers qui est parmi nous, il commence par fonder non seulement les poètes casqués dont on a parlé, mais la collection Poésie. Poésie 41, Poésie 42, etc., qu'il reprendra encore à la fin de sa vie avec Poésie 84 et les autres. Je voudrais lire un poème qu'il a repris dans ce texte-là, dans un numéro de sa revue. Dans un numéro de sa revue qui est en même temps un petit pied de nez à la censure de l'époque. Car sous le visa de la censure qui figure au dos de ce numéro de Poésie 41, que Seghers m'a offert il y a 40 ans aussi, il y a une citation de Rimbaud. Et cette citation de Rimbaud, qui convient parfaitement, puisque c'est aussi un numéro d'hommage à Rimbaud 50 ans après son décès, cette citation dit ceci, juste en dessous du visa de la censure. « Je vois la suite. Ma sagesse est aussi dédaignée que le chaos. Qu'est donc mon néant auprès de la stupeur qui vous attend ?» La stupeur qui vous attendait, c'était bien entendu non seulement la censure, mais ceux qui dirigeaient cette censure, notamment contre les poètes. Donc c'est beaucoup plus... La vision de Seghers, si j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'en parler avec lui, était davantage inspirée par une position anarchiste que par une position de parti. Le texte que j'ai choisi montre bien d'ailleurs l'atmosphère qui régnait à cette époque en France. J'ouvre ça. Voilà. Ça s'appelle « Le ver galant », mais c'est un titre un peu par antiphrase. C'est un poème d'amour donc écrit pendant la guerre, et Seghers a l'intelligence pour déjouer la censure de ne pas dire exactement ce qu'il advient de cette dame qui a tant de problèmes. Il nous dit qu'elle c'est une apache, mais la fille apache en même temps est associée à des barbelés, à une prison. Et c'est aussi un poème d'amour, donc je vous le dis. Longtemps je t'ai cherché dans les ruelles de ma nuit, dans la ville grondante aux mille et mille roues, dans la pluie, dans la boue, longeant le fleuve gris où luisent les feux tremblotants des barques qui s'échouent. Sur le pavé sonnant, je t'ai suivi, et la fièvre et la faim sur ton visage, en masque dur, te marquaient du rire de l'assassin. Quand s'est enfuie ton ombre, et sa pureté battue raclant les murs, rôdait encore ton faux sourire de fille apache, tard, quand s'éteignaient les yeux des casernes de la banlieue. Je t'ai cherché comme l'ombre qui tâche de rejoindre le corps vivant et chaud qu'elle appela. Ce soir où je te vis dans l'île, sombre et seul, pauvre comme un oiseau traqué, l'aile qui pend, blessé par les chasseurs, éperdu et qui se le dit avec un chant désespéré que nul n'entend. Des chalands descendaient sur l'eau grise et la brume sur eux se refermait. Des sirènes, des cris étouffés, l'odeur du soir humide des pauvres qui s'allument au feu des derniers ponts comme des feux pourris nous entouraient, pris entre le feu des hommes et l'eau sale. Je n'oublierai jamais l'immensité de ton regard, ni le reproche muet, ni les bras tendus à la mort, ni la clôture infranchissable par des mains humaines tressées, faite de fer, basse, mortelle. Je ne t'oublierai pas. D'autres ont repêché ton corps vanné, ton corps glacé de femme pauvre. Je ne t'oublierai pas. Et j'aurai tant cherché ton image effacée, seule et réelle, au vrai de cette vie fausse, aux lanternes, qu'en va le faucheur. Qu'un jour viendra, ô sœur première, pour ton ombre, à mon ombre unie dans la lumière, de l'humble paradis de ceux qui n'en ont pas. Voilà le texte que je voulais vous dire, écrit par Pierre au début de la Grande Guerre. J'en profite aussi pour remercier les organisateurs et vous remercier tous de la part de Virginie Segers, la demi-sœur de Colette, de Catherine, qui se trouve près de nous, qui a été retenue en province, mais qui pense à nous aujourd'hui et qui est très heureuse de cet hommage que vous lui rendez par votre présence et votre présentation. Merci.
Quelques mots peut-être ? Quelques mots ? Non, pas de mots du tout ? Pas du tout ? Des questions peut-être ?
Alors, des questions.
Alors effectivement, j'ai parlé de militantisme, le terme était peut-être pas tout à fait choisi, en tout cas pas militant d'un parti, bien évidemment, mais militant de la cause humaine et de la liberté.
Et à un moment donné, d'ailleurs,
Bravo.
Tu as prononcé le mot de l'anarchiste.
Oui, à propos de Merde à Vauban, oui.
Pareil, j'ai fait quelque chose sur les Apaches. Les Apaches, oui. C'était un mouvement.
Oui, oui, oui. J'ai fait un peu exprès de faire beaucoup entendre la poésie de Pierre Segers, puisque je crois qu'on ne la connaît pas trop, et de m'effacer un tout petit peu, pas faire trop de commentaires. Eh bien, c'est parfait, c'est exactement. Alors, pour lire Pierre Segers, donc bien sûr, il faut se procurer ce petit livre.
C'est difficilement trouvable. Hein.
Difficilement trouvable. J'imagine que sur Amazon, on peut le faire peut-être. Ou...
Non.
Sur les quais, pendant qu'ils existent encore.
Voilà. Et les bouquinistes.
Et
les bouquinistes.
Et ce livre formidable, alors ce n'est pas Pierre Segers lui-même, mais c'est toute l'aventure des poètes de la résistance. Ouais. Qui est réédité, alors là c'est mon volume personnel, il vient d'être réédité en deux volumes. Ouais. Il faut absolument se le procurer, c'est magnifique.
Les deux volumes sont publiés chez Guerre.
C'est les deux volumes qui viennent.
Qu'est-ce qu'il y a repris?
Oui, je sais pas. Enfin, vous trouverez sur. Vous tapez sur Internet La Résistance et ses poètes, et vous trouverez bien sûr la nouvelle édition. Je me souviens plus quel éditeur, je crois que c'est Segers. Oui, Galerie Vivienne. Oui, à la Galerie Vivienne. Pardon. Oui, à la Galerie Vivienne, je m'en souviens. Il y a une très très belle librairie de livres anciens où on les trouvait effectivement. Très bien. Allez, Galerie Vivienne, deuxième arrondissement. Alors, précisément, maintenant on pourrait. Je ne sais pas, donc tu connaissais bien sûr tous ces poèmes.
Pas tous.
Pas tous.
Beaucoup, voilà.
Quel homme était-il?
En tant que parent.
Ben, en tant que homme, en tant que père.
Aimer la vie, c'est ça qui est important. Aimer la vie, toutes les beautés, les plaisirs de la vie. Je pense qu'il a vécu la façon, à mon avis, la plus belle. La plus, voilà.
Est-ce qu'il vous lisait des poèmes?
Non.
Et vous-même, vous écrivez?
Ah, pas du tout.
Excellent peintre, il faut regarder, pour voir les œuvres de Catherine Segers, pleines de légèreté. Je t'avais demandé d'apporter ton petit livre, tu ne l'as pas apporté.
Mais j'ai pas pensé.
Oh là 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 là. C'est dommage, on n'a pas d'exemple là. Mais c'est vrai que c'est des très très belles peintures, aquarelles, papier collé. C'est très beau avec des petits personnages.
Ma galerie ferme. J'avais une galerie rue Mazarine, oui. Et c'est très dur en ce moment. Donc il ferme là au printemps. Et la galerie tournée,
mais là encore, vous pouvez taper sur Internet et vous trouverez quelques exemples de ces œuvres très intéressantes.
Vous êtes
un site
aussi?
Non. Pas de site Internet.
Pas de site.
Sinon,
c'est
guère, qu'est-ce qui est l'origine?
Ah ben c'est flamand.
Flamand,
c'est
guère. D'accord. Oui,
flamand. je dois te remercier beaucoup.
J'ai pas fait grand chose.
J'ai vraiment pensé à rendre cet hommage.
Ah oui, 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 moi je.
Au poète.
Comme je disais tout à l'heure, Pierre Séguier.
Une petite question personnelle, est-ce que à table il parlait de poésie?
Plus quand même de nourriture, de vin.
Que de poésie.
Mais la poésie, ça faisait partie de sa vie. On n'en parle pas.
Voilà. C'est une poésie de
faire. Voilà, c'est en soi. Hein. En soi.
Mais alors, avait-il le temps de déjeuner? Parce que quand on voit tout ce qu'il a fait.
Oui, oui, oui.
C'était un travailleur infatigable.
Si, si, si. Il prenait bien le temps.
Oui, il prenait bien le temps. Et alors, quel était son rythme de vie?
Eh bien, c'était quelqu'un qui se couchait très tôt, qui sortait jamais le soir, parce qu'il se levait très tôt le matin.
C'est-à-dire 6h, 5h, 6h.
Et là, il commençait à travailler, et puis le midi, il avait les repas.
Repas d'affaires.
Les repas d'affaires, voilà. Et toujours le midi, jamais, jamais le soir.
Et quand il a vendu sa maison d'édition, je crois que c'était en 68 ou en 69
69.
Est-ce que c'est à cause des événements de 68 ou bien est-ce qu'il en avait vraiment assez? C'était fatigant.
Oui,
c'était fatigant.
Justement, on ne faire plus qu'écrire.
Ouais.
Et elle a été vendue à qui cette maison d'édition?
Robert Laffont, je crois. Robert Laffont. Alors, il n'a pas fait qu'écrire des poèmes. Bon, je crois qu'il a quand même été à l'origine de la maison de la poésie à Paris. Non?
La première maison de la poésie.
Au Forum des Halles.
C'est là qu'on organisait des rencontres entre jeunes poètes, justement. C'est bien, ça fait beaucoup
de
l'époque. Oui, voilà.
J'ai assisté à
quelqu'un. Entre les tout jeunes poètes et leurs aînés.
Absolument.
Donc vous étiez?
Oui.
Donc
j'ai absolument. Été. C'est
formidable. Oui, vous étiez jeune. Et je crois d'ailleurs que dans la maison de poésie Passage Molière, il y a une salle Pierre Séguier.
Voilà, la petite salle.
Oui. Mais pas la grande salle, la petite salle.
Pour ceux qui demandaient tout à l'heure où venait son nom, ça n'a pas été dit par Bernard, il n'avait pas le temps de dire tout cela, mais Séguier, ses parents et grands-parents étaient flamands, en fait.
Oui, oui.
Et certainement d'autres flamands de Belgique, d'ailleurs, de France. Là, et le nom, le H a été ajouté d'ailleurs en mairie pour que ce ne soit pas prononcé Ségers ici. C'est pour ça qu'on a ajouté ce H, que l'on prononce bien Ségers à la flamande.
Voilà. D'accord.
Le père de Ségers d'ailleurs était sculpteur dans les églises du Nord, et notamment sculpteur de Jubé.
Jubé.
Avant de se convertir dans
les églises ici.
Sculpteur sur bois ou sur pierre?
Sculpteur sur bois.
Sur bois.
Sa mère, très tard, s'est occupée de la maison. Non,
beaucoup de femmes. C'était trop d'époque. Y compris ma mère, d'ailleurs.
C'est la
génération
d'après,
je crois.
Bien, si vous n'avez plus.
Vous avez encore des manuscrits de Pierre?
Ah non, 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 ça c'est.
Tout a été édité.
Je crois que les archives de Pierre Séguier sont déposées à l'IMEC, à Caen, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine.
Saint-Martin-la-Blanchère,
dans l'abbaye d'Ardennes, oui, d'Ardennes, c'est ça.
Pour les précisions.
Moi, j'habite pas loin.
Ah.
C'est un lieu formidable pour étudier.
En plus, c'est beau.
C'est assez beau. On travaille dans une immense. Ben, on travaille en fait dans la nef de l'ancienne abbaye. Et, c'est dans la banlieue de Caen, à Saint-Martin-la-Blanche-Herbe. Si vous y allez, il faut donc prendre le train à Paris-Caen et téléphoner pour qu'on vous envoie un taxi. Mais de toute façon, il faut réserver pour avoir les documents et les autorisations nécessaires, bien sûr. et dans ce cas-là, on vient vous chercher.
Il y a aussi Doucet.
Oui, aussi.
Enfin, c'est moi. J'avais toutes les lettres qui m'ont écrites à ma mère avant, une correspondance. Donc, j'ai donné ça à Doucet.
Ah, il y a d'autres archives à la bibliothèque Doucet.
Oui.
La correspondance, si j'ai bien entendu. D'accord. Toute la correspondance
à ma mère.
Ah, d'accord.
Spécialement. Elle était très importante.
D'accord. Et la correspondance avec les auteurs, donc la correspondance de la maison d'édition.
Non, tout ça c'est à l'IMEC.
Tout ça c'est à l'IMEC. Très bien. Donc il y aura peut-être un jour
une édition. Un colloque à l'IMEC.
Un colloque ou bien même une édition de cette correspondance, parce que c'est intéressant de lire les rapports d'un poète-éditeur avec un poète.
Bien sûr.
Est-ce qu'il ne pestait pas trop contre les poètes qui voulaient se faire éditer ?
Non.
Non ?
Ah, mais il est toujours plus méchant que lui.
J'imagine que ça devait être difficile éventuellement de faire des refus.
C'est le rôle de tout éditeur. Hein.
Ben oui, c'est le rôle d'un éditeur. Hein. Donc, très bien, s'il n'y a plus de questions, on va rester sur ces quelques mots. Merci de votre présence et de votre écoute. Merci.